au cœur des mots. Bienvenue dans une série de chroniques dans lesquelles les enfants et les personnalités prennent la parole et s'expriment sur leur vision de l'égalité. Cette émission est créée par l'association Au cœur des mots à Monaco, dont le président d'honneur est Son Altesse Sérénissime, le prince Albert II. L'association organise un concours d'écriture francophone au sein d'écoles dans le monde entier, autour du thème de la non-discrimination. L'objectif ? Éduquer pour faire évoluer les mentalités.
Bonjour, je m'appelle Hilde et je suis, en plus de votre hôte sur ce podcast, présidente fondatrice de l'association monégasque Au cœur des mots, qui œuvre pour l'égalité des droits entre les filles et les garçons. Aujourd'hui, je lance notre première chronique interview et pour cette première édition, j'ai l'immense honneur de recevoir une invitée de marque, Madame Isabelle Béraud-Amadei, conseillère ministre des Relations extérieures et de la coopération de Monaco. Elle est également présidente du Comité pour la promotion et la protection des femmes. Madame le conseiller ministre, bonjour.
Bonjour, Madame Anneuse.
Merci d'avoir accepté cette interview.
C'est un grand plaisir pour moi.
Alors, en préparant notre rencontre, j'ai appris que vous avez mené, avant votre nomination de ministre, une longue carrière dans le monde judiciaire. Vous étiez juge pendant 15 ans, d'abord au tribunal de première instance à Monaco, puis à la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, où vous avez été également présidente de section. Est-ce que ces expériences vous aident aujourd'hui dans votre fonction de ministre ?
Mais je vois que vous êtes effectivement très bien informée, Madame Anneuse. Effectivement, j'ai eu ce privilège d'exercer pendant ma carrière professionnelle deux fonctions. La première en tant que juge, d'abord à Monaco et ensuite à la Cour européenne des droits de l'homme, et ensuite une fonction d'ambassadeur. Alors, mon premier contact dans le milieu international, ça a été à la Cour, à Strasbourg, Cour européenne des droits de l'homme. Et je dois dire que j'en ai gardé un souvenir très fort parce que j'ai pu siéger dans cette cour prestigieuse avec 46 autres juges de 46 nationalités différentes, de cultures différentes, de religions différentes aussi, et de partager nos connaissances, de partager nos vues, d'échanger sur des questions sociétales qui agitent nos sociétés aujourd'hui. Ça a été une expérience particulièrement exaltante et à chaque fois que j'y repense, je me dis que j'ai eu vraiment un immense privilège d'être le premier juge de Monaco à la Cour européenne des droits de l'homme. Alors, cette expérience d'échange et de diversité, je dois dire aussi, elle m'a été très utile par la suite lorsque le prince souverain Albert II m'a fait l'honneur de me nommer ambassadeur de Monaco. La première fonction d'ambassadeur que j'ai exercée, c'était à Berlin. Et ensuite, j'ai exercé d'autres fonctions d'ambassadeur à Bruxelles. Et donc, je disais, cette expérience d'échange à la Cour m'a été très utile puisque j'ai été amenée, dans le cadre de mes fonctions d'ambassadeur, à rencontrer des hautes autorités, d'autres ambassadeurs et à effectuer un travail au sein d'organisations internationales où, là aussi, tous les sujets qui agitent nos sociétés sont débattus. Donc, j'ai pu capitaliser un petit peu cet apprentissage de la diversité, de l'échange avec les autres, de l'ouverture surtout aux autres, dans mes deux fonctions. Alors, je vous disais que j'avais été nommée également à Bruxelles. Et à Bruxelles, je me suis occupée des négociations de Monaco avec l'Union européenne, puisque Monaco négocie actuellement un accord d'association avec l'Union européenne. Ces négociations m'ont permis de parfaire mes connaissances sur l'Europe, sur l'Europe de l'Union européenne, et également de parfaire mes connaissances sur les structures institutionnelles et économiques de la principauté en même temps. Alors, je crois qu'avec ce parcours un petit peu atypique, à la fois judiciaire puis diplomatique, j'ai acquis, je pense, une vision assez globale des relations internationales qui, bien évidemment, me servent maintenant en tant que conseiller de gouvernement, ministre des Relations extérieures et de la coopération. Et si je me retourne sur ce parcours, je me dis que finalement, il y a un dénominateur commun à tout ça, c'est la défense à la fois des valeurs de justice, mais aussi d'égalité et de respect des droits fondamentaux, de protection des plus faibles et des plus vulnérables. Voilà, je dirais que c'est un petit peu ce fil conducteur qui a poursuivi l'idéal de ma carrière.
En fait, vous êtes un peu au service, donc d'abord de la justice, puis après aussi de votre pays. Donc, c'est le fait de servir quelque part.
C'est un très grand honneur d'être au service de mon pays. J'en suis très fière. Mais au travers des valeurs de mon pays, ce sont des valeurs de générosité, de solidarité, qui sont véhiculées par la principauté sous l'impulsion, évidemment, de son prince souverain.
Alors justement, quelles sont les qualités humaines qu'on, d'après vous, on doit posséder en tant qu'ambassadeur? Et une autre question, est-ce que l'égalité est bien respectée dans le monde diplomatique?
Alors, les qualités humaines pour être ambassadeur, je dirais évidemment l'ouverture aux autres, hein, puisque c'est un milieu qui est très international et où on côtoie de nombreuses personnes de nationalités différentes. L'ouverture aux autres vous amène, je crois, la tolérance, le respect aussi. Je dirais que ce sont des qualités que tout le monde devrait avoir. Hein, mais alors, plus particulièrement en tant qu'ambassadeur, peut-être le sens du dialogue. Et puis, bien évidemment, le sens de la diplomatie.
Exactement.
Alors, s'agissant de votre deuxième question, donc c'est sur l'égalité.
Oui, est-ce qu'elle est respectée?
Alors, je dirais de façon globale, en tout cas, je l'ai remarqué dans ma carrière d'ambassadeur, il y a de plus en plus de femmes ambassadeurs. Et ça, je m'en réjouis. Et je dirais même qu'il y a de plus en plus de femmes ministres des Affaires étrangères. Donc ça, c'est une bonne chose. Et j'en suis la preuve, puisque je crois qu'à Monaco, je suis la première femme qui exerce cette fonction. Au sein de mon département, et nous en sommes tous très fiers, nous sommes très représentés, puisque tous les postes à responsabilité du département des relations extérieures sont occupés par des femmes.
Bravo.
Il y a beaucoup de femmes qui travaillent dans ce département, je tiens à souligner en harmonie. Je crois qu'on a une sensibilité particulière et on travaille très bien ensemble. Et puis peut-être une dernière chose aussi qu'il faut mentionner toujours au sein du département. Donc la principauté est représentée à l'étranger par 16 ambassadeurs, dont 9 femmes. Donc ce qui fait une proportion de 56%. Donc vous voyez, les femmes sont plus représentées parmi les ambassadeurs de Monaco à l'étranger que les hommes.
Ben, c'est très bien, on ne va pas se plaindre. Après donc votre poste donc d'ambassadeur, le prince, donc son Altesse Sérénissime le prince Albert II de Monaco vous nomme ministre des Relations extérieures. Donc effectivement, ce portefeuille ministériel comprend également la coopération internationale de Monaco. Vous aidez donc dans ce cadre 11 pays partenaires. Comment la coopération choisit les projets qu'elle soutient et quels sont les domaines d'intervention principaux?
Alors, vous l'avez justement dit, grâce à la volonté du prince souverain, la principauté de Monaco est un pays qui contribue largement à la solidarité internationale par une politique de coopération qui est très engagée, qui est mise en œuvre depuis maintenant 15 ans, puisque nous avons fêté les 15 ans de la coopération l'année dernière, et qui, je crois qu'il faut le souligner, a continuellement bénéficié d'un renforcement de ses moyens publics depuis toutes ces années. Donc ça, c'est très important. Cette politique, elle est menée par le gouvernement princier et le but, c'est de lutter contre la pauvreté et d'assurer l'accès des plus vulnérables à leurs droits fondamentaux. Il y a 4 pôles d'intervention au sein de la coopération, la santé, l'alimentation, l'éducation et l'accès à un emploi décent. Donc, c'est 4 pôles principaux qui constituent, si vous voulez, nos sphères d'action. Donc, nos interventions, elles ciblent de façon transversale à travers ces 4 pôles d'activité les groupes les plus vulnérables, vous l'avez dit, de 11 pays partenaires. Donc, ces groupes les plus vulnérables sont les enfants, les femmes, les personnes en situation de handicap et les personnes réfugiées et ou déplacées.
Est-ce que vous avez également la possibilité d'intervenir selon l'actualité? Par exemple, aujourd'hui, donc, nous sommes confrontés à ce terrible tremblement de terre qui a frappé la Syrie, la Turquie. Est-ce que là, donc, dans le cadre de la coopération, vous intervenez ou est-ce qu'il y a d'autres moyens d'action de Monaco pour soutenir ces pays?
Oui, oui, dans le cadre de notre département, bien évidemment, la solidarité et la générosité sont des maîtres mots hein, de nos actions. On ne peut pas rester insensible à ce qui se passe dans le monde, au-delà évidemment des pays de coopération. Et la principauté de Monaco, face à l'ampleur du drame qui s'est déroulé suite aux séismes qui ont lieu en Turquie et en Syrie, nous avons débloqué immédiatement une aide d'urgence via la Fédération internationale des Croix-Rouges de Syrie et de Turquie pour intervenir au plus près des personnes qui en ont besoin. Donc effectivement, nous avons aussi des aides d'urgence qui nous permettent d'agir immédiatement lorsque le besoin s'en fait sentir, quelles que soient les régions du monde qui subissent des catastrophes naturelles, par exemple, ou d'autres situations qui nécessitent que la solidarité se mette en marche.
Comme la guerre.
Par exemple.
C'est vrai que c'est les enfants qui sont en général les plus vulnérables, ce sont toujours eux qui sont touchés le plus donc, par toutes ces injustices. C'est vrai que pour nous, donc, au cœur des mots, l'éducation leur permet de s'affirmer, de choisir un métier pour justement accéder à une vie meilleure. Nous, notre objectif, c'est de les faire réfléchir pour qu'ils s'affirment et qu'ils s'opposent contre toute forme de discrimination et donc qu'ils réclament, par exemple, l'éducation pour tous. Est-ce que vous aurez éventuellement un message pour cette jeunesse?
On pourrait dire à la jeunesse, à ces enfants qui sont les acteurs du monde de demain. Et le message à leur passer, c'est peut-être soyez forts, soyez déterminés, soyez passionnés, soyez évidemment engagés pour construire un monde plus humain, plus juste et plus durable.
Et qu'ils doivent garder confiance?
Je pense que, je dirais, tout est possible quand on a confiance en soi.
C'est vrai. Est-ce que je peux encore vous poser une dernière question un peu plus personnelle?
Oui.
Est-ce qu'il y a un personnage féminin que vous admirez et qui, d'après vous, incarne les valeurs que vous estimez, vous, le plus?
Alors, Madame Haneux, c'est vraiment une question très personnelle parce que ma réponse va peut-être vous surprendre. Évidemment, il y a beaucoup de femmes emblématiques que l'on pourrait citer et c'est très difficile de détacher une personnalité plutôt qu'une autre. Alors, je dirais que celle qui m'a guidée dans toute ma carrière et qui a servi de modèle, c'est ma mère, qui est une femme qui a toujours su attacher de l'importance à son environnement professionnel, puisqu'elle a toujours travaillé toute sa vie, et en même temps préserver sa famille. Je crois qu'elle l'a fait avec beaucoup de courage, en ne ménageant pas ses efforts, à la fois dans sa carrière professionnelle et aussi avec l'attention qu'elle nous a portée. C'était une femme engagée et qui nous a toujours inculqué des valeurs de générosité, de tolérance et qui nous a encouragés à mener notre propre vie et surtout à s'autonomiser. Voilà, encouragée à trouver un métier dans lequel on peut s'épanouir. Je crois que toutes ces valeurs qu'elle nous a inculquées, à ma sœur et moi, puisque nous étions deux filles dans la famille, nous servent et nous serviront toute notre vie.
Ben, c'est merveilleux. C'est vrai que c'est ainsi que ça devrait être, en fait, logiquement. Donc, toutes les mamans devraient essayer de guider leurs enfants vers donc une vie autonome et heureuse. Et effectivement, de réussir à combiner à la fois donc, la vie professionnelle et la vie personnelle. C'est vrai que c'est tout un programme, mais c'est justement ce qui est important et ce qui est passionnant. Donc, c'est vrai qu'il faut en permanence choisir donc, et définir les priorités. Parfois, c'est un peu la famille, parfois, c'est le travail. Mais je pense que c'est ça qui rend justement très riche la vie en tant que telle. Donc,
oui, et ça démontre que c'est possible.
Et sur ces belles paroles, Madame la Ministre, je vous remercie infiniment pour votre temps si précieux. Merci vraiment beaucoup pour ce partage enrichissant et je vous dis à bientôt.
À bientôt et merci beaucoup.
Merci d'avoir écouté la chronique Au cœur des mots. Retrouvez-nous pour le prochain épisode et entre-temps, rendez-vous sur notre compte Instagram Au cœur des mots, aux.coeurs.des.mots. À bientôt!